Heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Cette petite phrase était très appréciée d'un bon camarade durant mes études. Il aimait ce détournement du verset de Matthieu 5, 3, qui laisse penser que pour être chrétien, il faut être pauvre d'esprit, simple d'esprit, un peu benêt, ne pas trop réfléchir. Aujourd'hui, le programme d'études Bâtir sur du solide nous invite à regarder un des textes les plus connus de l'Évangile, les Béatitudes du Sermon sur la montagne. Bien au-delà des cercles chrétiens, ce texte est connu, souvent apprécié, mais aussi souvent mal compris. Nous allons relire ce passage. Il se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Matthieu 5, les versets 1 à 12. Et je vous invite à vous lever en signe de respect pour la parole de Dieu. En fait, dans cette scène, tout le monde est assis. Jésus, ceux qui l'écoutent. Peut-être est-il mieux de vous asseoir pour écouter l'enseignement de Jésus. Donc, asseyez-vous et écoutez l'enseignement de Jésus et laissez-vous interpeller. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédé. Nous commençons aujourd'hui notre deuxième mois du programme Bâtir sur du solide. Le mois dernier, Samuel a fait résonner l'appel de Jean-Baptiste, appel à changer de vie, à nous détourner du péché et à y conformer nos vies. Produisez donc un fruit digne du changement radical, disait Jean-Baptiste. Déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Changer de vie. Comment répondre à cet appel? Comment changer nos vies pour qu'elles portent ce fruit digne du changement radical? Quelle est cette nouvelle façon de vivre que nous devons viser? C'est Jésus qui nous donnera la réponse. Jean-Baptiste était chargé d'annoncer Jésus. La Bible dit de lui qu'il est la voix qui crie dans le désert, annonçant le Seigneur. Il est normal que le Seigneur qui vient après, Jésus, ait la réponse aux questions que le prophète soulève. C'est son enseignement que nous devons étudier et mettre en pratique. Le passage que nous avons lu est l'introduction du long discours de Jésus appelé « Sermon sur la montagne ». Dans l'évangile de Matthieu, ce discours est prononcé tout au début du ministère de Jésus. Jésus a été baptisé, puis il s'est rendu au désert pour y être tenté. Après cela, il a appelé ses premiers disciples et le voilà qui commence à enseigner à travers la Galilée. Et rapidement, des foules le suivent. Et Jésus ressent le besoin de mettre les choses au point et expliquer ce que ce royaume qu'il vient mettre en place, ce qu'il est. Dans ce sermon, on ne peut pas manquer de remarquer la montagne. Vous vous souvenez que c'est sur une montagne que Moïse est allé recevoir de Dieu la loi de l'Ancienne Alliance. C'est sur une montagne que Jésus donne son enseignement. Tout de suite, on pense qu'il s'agit des commandements de l'Alliance nouvelle qu'il propose. Jésus monte donc sur cette montagne et s'assoit. C'est la posture qu'adoptaient les enseignants assis face à leurs élèves. L'assistance est large. Et on peut distinguer deux catégories. Il y a des disciples, des personnes qui ont répondu à l'appel de Jésus et ont choisi de le suivre. Il y a aussi des curieux, attirés par ce personnage charismatique et désirant en savoir plus. Va-t-il les délivrer de l'occupation romaine ? Le discours que fait Jésus s'adresse à ces deux catégories. Les disciples, ceux qui ont décidé de confronter leur loi, leur vie aux enseignements de Jésus, y trouveront des instructions à suivre. Les autres, ceux qui viennent pour voir, recevront un appel au changement. Voilà le tableau. Le maître est assis, sur le point de donner son enseignement. Autour de lui, deux cercles d'audience, les disciples et les curieux. Tout le monde attend sa nouvelle loi, ses nouveaux commandements. Mais au lieu de 10 commandements, Jésus donne 8 béatitudes, 8 heureux. Les 8 clés du bonheur. Comment comprendre ce texte ? Il y a du monde dans l'auditoire et tout le monde a un avis. Et aujourd'hui encore, face à ce texte, tout le monde n'est pas d'accord. Pour les uns, ce discours, et pas seulement les béatitudes, mais tout le sermon sur la montagne, est inapplicable. Comment, dans ce monde si hostile, peut-on témoigner autant de bonté ? Jésus présente certainement ici un idéal qu'aucun humain ne peut atteindre. Il s'agit là d'une mauvaise piste. Dire qu'il s'agit d'un objectif impossible à atteindre serait nier l'objectif de Jésus. Lorsqu'il s'adresse à son auditoire, il leur demande réellement de changer de comportement. Pour d'autres, au contraire, il n'y a rien d'original dans ces paroles. Il s'agit de normes éthiques classiques présentes dans toutes les religions. Et ces personnes pensent déjà les vivre. Mais les ont-elles bien lues ? En effet, dire que ces objectifs sont à la portée de tous, c'est sous-estimer l'influence du péché sur l'homme. Je crois que la bonne lecture est un peu plus nuancée. Personne n'arrive du premier coup à remplir les exigences exposées par Jésus. Mais personne n'est totalement incapable non plus de les mettre en œuvre. Même si elles sont difficiles, elles sont à notre portée. Nous pouvons nous mettre au travail et nous y sommes invités. Alors, nous serons bénis. Heureux. C'est par ce mot que commence chacune des béatitudes. Prenons le temps de comprendre le sens de ce mot. En effet, on ne peut pas le comprendre comme habituellement joyeux. Jésus ne nous dit pas dans ce passage que, en gros, tous ceux qui sont malheureux sont joyeux. Le sens utilisé ici est autre. C'est un sens qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible, comme par exemple dans le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Heureux l'homme. Le mot heureux signifie béni. Béni soit l'homme qui ne suit pas les projets des méchants. En fait, l'homme qui se conduit ainsi a tout compris. Il suit la bonne voie. Il a trouvé le bonheur. C'est ce que nous avons dans notre texte. À chaque heureux correspond une bénédiction qui arrive en conséquence. Mais attendez. Une bénédiction qui arrive en conséquence? Ne serions-nous pas en train de glisser vers la bête noire des protestants, le salut par les œuvres? Si nous avons un certain nombre de choses à faire, être doux, compatissant, avoir le cœur pur, etc., si nous avons ces choses à faire pour être bénis, alors nous ne sommes plus sauvés par la grâce seule? C'est un débat vieux comme le christianisme, et on en retrouve des traces dans les épîtres du Nouveau Testament. Jacques, par exemple, met au défi ses lecteurs. « Montre-moi ta foi en dehors des œuvres, moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien on change de comportement pour lui plaire. Je ne parle pas de se mettre sous un jour meilleur pour séduire, mais dans une relation d'amour stable, par exemple avec ses enfants, avec ses parents, avec un être cher, nous adaptons notre comportement pour le plaisir de celui que nous aimons. Par exemple, à la maison, les enfants n'aiment pas la soupe. Nous essayons de nous adapter et de faire les soupes avec lesquelles ils ont le moins de mal. Par exemple, la soupe à la tomate. Ce n'est pas de la compromission, ce n'est pas pour les séduire. C'est essayer de rendre la chose plus agréable parce que nous les aimons. Dans ses commandements, Jésus nous dit ce qu'il aime. Dans ses béatitudes en particulier, il nous dit quel trait de caractère il souhaite voir en nous. Si nous l'aimons, n'allons-nous pas nous efforcer de changer pour lui plaire? Jésus ne dit pas autre chose lorsqu'il dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Nous voici donc devant 8 béatitudes. Mais avant de les prendre individuellement, regardons leur ensemble. En effet, Nous aurions tort de penser qu'il s'agit de 8 maximes indépendantes, s'adressant à des catégories distinctes de disciples, ceux qui sont doux, ceux qui pleurent, etc. Un détail doit attirer notre attention. La première, les premières et dernières bénédictions sont les mêmes. Car le royaume des cieux est à eux. Ces deux versets encadrent l'ensemble, constituant une inclusion. Et l'ensemble, loin d'être disparate, décrit en 8 traits les membres du royaume des cieux, ceux qui suivent Jésus. De même qu'il n'y a pas 8 catégories de chrétiens, les bénédictions ne sont pas distinctes les unes des autres. Il ne faut pas penser que les doux hériteront de la terre mais ne seront pas consolés, que ceux qui pleurent seront consolés mais ne verront pas Dieu, etc. Ce passage doit être pris dans son ensemble. Nous sommes devant une description en 8 points du chrétien, du vrai chrétien, le chrétien véritable, celui qui veut suivre Jésus et en porter un fruit digne. Et ce sont toutes ces bénédictions que Dieu veut pour ses enfants. Ce sont tous ces traits que le Saint-Esprit veut développer dans nos vies. Il est également intéressant de noter que si les bénédictions encadrant, car le royaume des cieux est à eux, sont au présent, les bénédictions qui se trouvent à l'intérieur, elles, sont au futur. Alors, les bénédictions annoncées par Jésus sont-elles pour tout de suite ou à venir ? Le futur employé indique qu'une part de cette bénédiction est à venir. Et notre expérience nous le confirme. Ceux qui sont doux ne règnent pas sur la terre. Ceux qui pleurent ont toujours leurs larmes qui coulent. Ceux qui ont faim et soif de justice ne sont pas encore rassasiés. Il y a dans ces bénédictions une part de promesse. Mais ce ne sont pas que des promesses destinées à faire oublier aux opprimés leurs souffrances. On reproche à l'Église, au cours de l'histoire, de s'être fait l'allié des oppresseurs, en imposant la soumission en échange du salut. Mais cet enseignement est un détournement de l'Évangile et doit être combattu. Comment, par exemple, peut-on avoir faim et soif de justice et se faire l'allié des oppresseurs ? L'Évangile ne peut justifier l'oppression. Si une part des bénédictions est à venir, ces bénédictions sont déjà réelles aujourd'hui. En effet, c'est dès aujourd'hui que le royaume des cieux appartient aux pauvres d'esprit. Le bonheur que propose Jésus n'est pas un bonheur subjectif, une impression de bien-être. C'est un bonheur objectif. Ceux qui suivent ses recommandations sont déjà heureux. Même si les apparences sont contraires, même si aux yeux du monde, leur bonheur est incompréhensible. Car nous le savons, il y a du bonheur à suivre Jésus. Il y a du bonheur à savoir que nous sommes sur la bonne voie. Il y a du bonheur à faire plaisir à notre Seigneur et Maître. J'aimerais citer l'exemple de cet étudiant en Chine dont Portes Ouvertes donne le témoignage. Suite à sa conversion, il s'est trouvé marginalisé, sous pression, menacé. Notre avenir professionnel est compromis, écrit-il. Nous risquons quotidiennement d'être arrêtés et interrogés, battus ou incarcérés. de voir nos familles payer d'énormes amendes. Nous sommes isolés, mais le risque que nous courons est sans commune mesure avec la joie de connaître Jésus. Ceux qui suivent Jésus, c'est dès aujourd'hui qu'ils sont heureux. Heureux les pauvres en esprit. Qui sont ces fameux pauvres en esprit? D'autres traductions choisissent ceux qui ne se savent pauvres en eux-mêmes, ou bien ceux qui se connaissent spirituellement pauvres. Cette pauvreté n'est pas un manque de quoi que ce soit. Ce n'est pas un manque d'intelligence, par exemple. Il ne nous est pas demandé d'arrêter de réfléchir quand on suit Jésus. Il s'agit d'un état d'esprit. Oubliez toute fierté concernant notre relation spirituelle avec Dieu. Et reconnaître que si nous avons accès à lui, c'est uniquement parce que lui le veut bien. Le chrétien est appelé à reconnaître sa totale dépendance à l'égard de Dieu. Aux pauvres en esprit, à ceux qui reconnaissent leur incapacité à s'en sortir seuls, Dieu donne dès aujourd'hui une place dans le royaume des cieux. Heureux ceux qui pleurent. Mais qu'est-ce qui fait pleurer le chrétien? C'est certainement la pauvreté spirituelle qu'il a reconnue. Non seulement le chrétien reconnaît son incapacité à aller vers Dieu, mais il en est malheureux. Il est malheureux de voir cette vieille nature encore active, de voir son péché qui se met si régulièrement en travers de la route. Alors il pleure sur le péché, le sien, celui de l'Église, celui qui règne sur le monde. À ceux qui pleurent, Dieu donnera la consolation. Ils y goûtent déjà quand, avec l'aide de Jésus, ils résistent au péché. Mais cette consolation sera entière lorsque le péché sera définitivement vaincu. Heureux ceux qui sont doux. D'autres traductions indiquent ceux qui sont humbles. Ce sont ceux qui acceptent ce qu'ils sont humblement. Le chrétien accepte avec humilité ce qu'il est. Il reconnaît sa pauvreté spirituelle, il pleure dessus, mais il accepte aussi qu'elle soit perçue par les autres et par ses frères et sœurs en particulier. Il accepte ce qu'on peut lui dire avec humilité, avec douceur. Le discours va à l'inverse de ce qu'on nous apprend dans ce monde. On nous pousse à réussir. On nous invite à compter avant tout sur nous-mêmes. On nous inculque à nous endurcir, à être fort. Mais Jésus dit que c'est au doux que reviendra la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Il s'agit de ceux qui ne se contentent pas de l'état actuel du monde dans lequel ils se trouvent. Le chrétien s'intéresse aux autres. Il ne vit pas sa relation avec le Créateur coupée de la réalité qui l'entoure, sans voir ce qu'il y a autour de lui. Et l'injustice que produit le péché, ce mal qui déplaît à Dieu, eh bien, il lui déplaît à lui aussi.
le chrétien aspire au changement. Et comme toute faim, comme toute soif, le désir du chrétien revient. Il y a toujours de nouvelles injustices qui le révoltent. En Jésus, ceux qui ont faim et soif trouveront la satiété. Ils peuvent se réjouir dès aujourd'hui quand ils voient Dieu intervenir pour relever l'opprimé. Mais plus encore, ils verront le jour où le Christ reviendra et où leur faim et leur soif sera définitivement étanchée. Les quatre premières béatitudes suivent une progression d'intensité dans la relation du chrétien avec Dieu. Il faut commencer par être pauvre en esprit, reconnaître sa faillite spirituelle devant Dieu, puis déplorer ce péché qui règne dans le monde et contamine nos vies à en pleurer. Conscient de ses faiblesses, il faut rester doux et humble devant les autres, mais aussi aspirer à la justice, en particulier pour ceux qui souffrent. Repentez-vous et changez de vie. Si les quatre premières béatitudes nous invitent à mettre en ordre notre relation avec Dieu, les quatre suivantes nous invitent à changer notre façon d'agir. Heureux ceux qui sont compatissants. Dans d'autres traductions, on trouve encore ceux qui ont de la compassion ou qui témoignent de la bonté. La prise de conscience vis-à-vis de l'injustice est un premier pas, mais elle ne suffit pas. Le chrétien se met en route et passe à l'action pour témoigner à ceux qui souffrent de la compassion. Il est du côté de celui qui souffre et il le soutient. Jésus dit : tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites de même pour eux. Dieu nous traitera comme nous avons traité les autres. Et ceux qui ont montré la compassion obtiendront la compassion de Dieu. Il sera à leur côté. Heureux ceux qui ont le cœur pur. En parlant de pureté, Jésus oppose la pureté du cœur à la pureté apportée par les rites. Il reproche à plusieurs reprises aux pharisiens à donner plus d'importance à purifier l'apparence des choses qu'à prendre soin de leur intérieur. Le véritable cœur pur, c'est Dieu qui le donne. Le chrétien est complètement tourné vers Dieu, entier, sincère. Il produit simplement des actes en cohérence avec ce qu'il est. Il ne cherche pas à sauver les apparences. Et ceux qui ont le cœur pur auront le privilège de voir Dieu et de contempler sa gloire. Heureux les artisans de paix. Les artisans de paix créent la paix autour d'eux et la répandent. Dans ce monde où on pense, où on ne pense qu'aux droits que l'on a sur les autres, où on s'autorise, quand on a été maltraité, à traiter pareillement, le chrétien accepte, le chrétien décide de briser ce cercle de violence. Il accepte de ne pas répondre au mal qu'il a reçu et de laisser une chance supplémentaire à la paix. Ceux-là, ceux qui cultivent la paix, seront appelés fils du Très-Haut. Enfin, heureux ceux qui sont persécutés. Quel paradoxe! Comment le chrétien, compatissant, sincère et qui recherche la paix, peut-il être persécuté? Et pourtant, c'est bien le cas. Nous connaissons les témoignages de nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Nous les entendons régulièrement à l'Église. Et Jésus, notre maître, notre modèle, il a connu lui aussi la persécution. Et malgré cette persécution, le chrétien est encore heureux. On a sur les quatre dernières béatitudes, une fois encore, une progression. Le chrétien exprime de la compassion pour ceux qui souffrent, mais son cœur pur le pousse à agir en conséquence. Plus encore, face à l'agression, il cultive la paix, même lorsque cela l'expose à la persécution. Lorsque cela arrive, ne nous troublons pas. Jésus ne nous a pas promis une vie en long fleuve tranquille. Il nous a annoncé les difficultés. Il l'a annoncé, il l'a répété. Comme les prophètes d'autrefois, elles sont la marque de notre appartenance à Dieu. Alors réjouissons-nous. Le royaume des cieux est à nous. Aujourd'hui, nous n'en connaissons que les prémices. Nous n'avons que les prémices du bonheur. Mais le jour où Jésus reviendra, et il arrive, notre bonheur sera complet. Le choix proposé par Jésus est déroutant. Tout le contraire de ce que met en avant le monde. Il s'agit de reconnaître sa petitesse, pleurer dessus, vivre humblement et rechercher la justice. Au-delà de cette orientation, il faut passer à l'action en exprimant la compassion, en étant sincère, en travaillant à la paix et ce, malgré la persécution. C'est là la vie du chrétien véritable, la vie de bénédiction voulue par Dieu. La loi donnée par Moïse s'achève ainsi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives. C'est le même choix que donne Jésus. Le choix entre la vie qu'il propose et la bénédiction qu'il donne, ou bien alors la malédiction de la mort éternelle. Autour de Jésus, une grande foule est assemblée. L'appel est pour tous. Appel à changer radicalement de vie et à bâtir sur du solide. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Reconnaissez votre pauvreté devant Dieu, que vous n'arrivez à rien sans Jésus-Christ, et portez-en le fruit.